J'accuse. J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse une campagne abominable.
Le 26 avril prochain.
En portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Et c'est volontairement que je m'expose.
C'était à la une.
Le matin, 26 juillet 1909. Un grand Français, Blériot, franchit la Manche en aéroplane.
Comment j'ai traversé la Manche ? Le fait est si simple que je renoncerais presque à le décrire si, étant aviateur ce matin, je n'étais journaliste cet après-midi. Le réveil fut pour moi quelque chose d'insupportable. Mon ami Alfred Leblanc m'avait réveillé à 2h30. Je n'étais, je l'avoue, nullement disposé à partir. Je voyais les choses en noir et, ne le dites à personne, j'aurais été heureux d'entendre dire que le vent soufflait si fort qu'aucune tentative n'était possible. Enfin, cela n'allait pas du tout. Leblanc me remonta un peu. Il m'emporta dans son auto. J'étais sauvé. L'air vif qui me fouettait le visage me réveilla tout à fait. J'eus un peu honte de mon mouvement de faiblesse. J'avais cette fois du courage pour deux. Au baraque, Mamet et Colin, mes deux excellents collaborateurs, ont ouvert la tente. Le monoplan sort de la cour de la ferme. Tout est prêt. Fidèle au règlement, j'ai attendu le lever du soleil. Une petite émotion s'empare de moi au moment où je prends place dans l'appareil. Que va-t-il arriver ? Irai-je jusqu'à Douvres ? Réflexion rapide qui ne dure pas. Je ne pense plus qu'à mon appareil, au moteur, à l'hélice. Tout est en mouvement, tout vibre. Au signal, les ouvriers lâchent l'appareil. Me voilà soulevé. Je pique droit devant moi. M'élève progressivement de mètre en mètre. Je franchis la dune d'où Leblanc m'envoie ses souhaits. Je suis à présent au-dessus de la mer. Je vais tranquillement, sans aucune émotion, sans aucune impression réelle. Il me semble être en ballon. L'absence de tout vent me permet de ne faire agir aucune commande de gouvernail ou de gauchissement. Au-dessus de la terre, les maisons, les bois, les routes apparaissent et disparaissent comme dans un rêve. Au-dessus de l'eau, la vague, la même vague, semble-t-il, se présente toujours à la vue. Je suis content de mon appareil, sa stabilité est parfaite. Pendant une dizaine de minutes, je suis resté seul, isolé, perdu au milieu de la mer immense, ne voyant aucun point à l'horizon, ne percevant aucun bateau. Ce calme, troublé seulement par le ronflement du moteur, fut un charme dangereux dont je me rendis fort bien compte. Aussi, j'avais les yeux fixés sur le distributeur d'huile et sur le niveau de consommation d'essence. Ces 10 minutes me parurent longues, et vraiment je fus heureux d'apercevoir vers l'est une ligne grise qui se détachait de la mer et qui grossissait à vue d'œil. Nul doute, c'était la côte anglaise. J'étais presque sauvé. Je me dirige vers cette montagne blanche, mais le vent et la brume me prennent. Je dois lutter avec mes mains, avec mes yeux. Mon appareil obéit docilement à ma pensée. Je le dirige vers la falaise. Cependant, je ne vois plus Douvres. Ah, diable, où suis-je donc ? 3 bateaux s'offrent à ma vue. Ils paraissent se diriger vers un port. Je les suis tranquillement. Mais sur le sol, un homme agite désespérément un drapeau tricolore. Je viens vers terre et j'aperçois le rédacteur du matin, le bon Fontaine, qui, seul dans la grande plaine, s'égosille. Ah, le brave garçon ! Je veux atterrir. Le remous est violent. Dès que j'approche du sol, un tourbillon me soulève. Je ne puis rester plus longtemps dans les airs. Le vol avait duré 33 minutes, c'était suffisant. Au risque de tout casser, je coupe l'allumage. Et maintenant, au petit bonheur. Le châssis se reçoit un peu mal, il se casse un peu. Ma foi, tant pis. Je venais de traverser la Manche. Louis Blériot.